1 Timothée chapitre 3 et le verset 16. L'apôtre inspiré du Saint-Esprit nous dit ceci. Il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Jésus, il a été manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, contemplé par les anges, proclamé chez les païens, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Si je commencer à un enseignement un jour en vous disant que une vie sainte, une vie qui plaît à Dieu, est un grand mystère. Que penseriez-vous? C'est comme cela que l'apôtre nous parle de la piété. Vous savez ce que c'est que la piété, le mot pieux, le mot piété n'est pas un mot qu'on utilise souvent en France aujourd'hui. On l'utilise même mal. On dit un vœu pieux, n'est-ce pas? Pour se moquer d'un vœu sans effet. Mais la piété est une réalité formidable. Avoir la piété ou être quelqu'un de pieux signifie tout simplement, le mot signifie quelqu'un qui est tourné vers Dieu. Ça veut dire quelqu'un qui est empreint par la grâce de Dieu, par l'action de Dieu dans sa vie, qui a un sens de Dieu, de sa grandeur, de sorte qu'il vit dans une sainte crainte de Dieu, une sainte révérence. Et un sens de la bonté, la grâce et l'amour immense de Dieu qui l'émerveille de sorte que il se confie en ce Dieu. Il a plus de confiance en lui que toute autre chose. Il l'affectionne plus que toute autre chose. C'est ça la piété. Trouver quelqu'un de pieux, c'est presque trouver un ange par terre. Et l'apôtre nous parle de la piété et du mystère de la piété. Maintenant, je suis dans l'introduction et il faut savoir que le mystère de la piété, ce n'est pas la piété elle-même qui est mystérieux. C'est pas comme si quand vous trouvez quelqu'un de pieux, il est étrange. C'est pas ça que Paul veut dire. C'est pas le caractère de la piété qui est mystérieux. C'est la méthode de Dieu pour restaurer la piété par terre qui est un mystère. Et vous voyez dans le texte, c'est de ça que Paul parle. Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, contemplé par les anges, proclamé chez les païens, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Pour Paul, ça c'est le mystère de la piété. Le mystère de la piété est la personne de Jésus-Christ. Nous allons voir, ça nous semble bizarre au début. Mais donc, ce n'est pas non plus que même cette restauration de la piété chez un peuple élu soit mystérieux dans le sens d'étrange. Le mot mystère signifie quelque chose qui était caché avant et maintenant est révélé. D'accord? Et ça veut dire que pendant longtemps, des siècles et des millénaires, ni les hommes, ni les anges n'avaient aucune idée claire sur comment Dieu pouvait restaurer la piété dans un monde devenu impie. Comment le ferait-il? À l'homme qui est coupable, qui ne mérite que la punition, comment peux-tu en lui donner plutôt la bénédiction de la piété? Et comment est-ce que cette piété peut même lui revenir, lui qui est impie, de nature? Parce qu'il fait pas, il fait place, partie d'une race qui est déchue. Et Paul dit que grand est le mystère de cette restauration de la piété dans l'humanité. Et nous allons voir que ce mystère est grand en raison de ses conséquences. Nous allons voir aussi que c'est grand en raison de la personne qui l'accomplit et l'œuvre par laquelle il l'accomplit. Ok, nous commençons avec le premier point. Le mystère de la piété est grand en raison de ses conséquences. Piété, un cœur tourné vers Dieu, une vie imprégnée de Dieu. Toute ma personnalité est ta personnalité qui répond à Dieu par la foi, par l'amour, l'affection du cœur réel, par un espoir d'être avec lui un jour, par le service humble, l'obéissance entière et immédiate et complète, vivant la communion avec Dieu, vivant avec Dieu. Cette vie-là, chers amis, il n'y a rien de plus grand sur cette terre que la piété. Il n'y a rien de plus grand que Dieu valorise plus dans ta vie que tu sois véritablement pieux. Attention, les amis, dans les églises évangéliques, il y a peu de piété aujourd'hui, souvent. On a de l'activité, on bouge, on parle surtout beaucoup, beaucoup d'air chaud, beaucoup de mots. Mais quand on va aller voir dans le coin reculé de la vie de couple, dans la vie intérieure, dans les pensées intimes d'un homme qui agit beaucoup et qui parle beaucoup, est-ce qu'on voit ce que je viens de décrire? Cette réalité intérieure et réelle et intègre, qui n'est pas un prétexte de la piété. Rien n'est plus important. Sans la piété, tout le reste est une contrefaçon, n'est-ce pas? Et aucun malheur n'est plus grand que la perte de la piété sur terre. Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, et les politiciens courent après, c'est à cause de la perte de la piété sur terre. La violence, les crimes, les fraudes, tout le reste. Aucun malheur ne peut être plus grand que la perte de la piété dans l'Église. Et aucun don, aucun cadeau que Dieu puisse vous donner n'est plus grand que de vous donner à vivre une vie pieuse. Mais c'est important non seulement pour que ça aille bien sur terre, la piété n'est pas important, n'est pas grand dans ses conséquences juste pour toi. Nous sommes tellement égoïstes. La piété humaine est importante et grand pour Dieu et même pour tout le monde céleste. Je parle des anges. Quelque chose dont on ne pense pas souvent, mais nous allons voir que Paul en pense. Lorsque l'homme devient impie, il y a dans l'univers de Dieu maintenant une grande division entre un monde céleste, des multitudes d'anges pieux qui aiment Dieu, et l'homme qui n'aime pas Dieu. Il y a une rupture énorme. dans ce que Dieu avait voulu unir. Et donc, nous allons voir, si vous pouvez regarder le texte, qu'il y a probablement de la poésie devant vous, probablement une petite partie d'un chant ou d'un cantique que Paul utilise. Nous le pensons parce que il est écrit en trois couplets que j'ai mis là devant vous. Et regardez, chaque couplet parle du monde ici-bas et du monde céleste. Regardez bien. Manifesté dans la chair, le monde ici-bas, justifié dans l'esprit. Je vais vous montrer que c'est une référence au monde céleste. Contemplé par les anges, le monde céleste, proclamé chez les païens, le monde ici-bas. Cru dans le monde ici-bas, élevé dans la gloire. Et dans ces trois couplets, nous avons toute l'histoire de la venue de notre Seigneur, ce grand mystère de comment Dieu restaure la piété dans l'humanité, dans un peuple élu. Je m'arrête à la fin de ce premier point où nous en avons deux de plus. Une petite application. Vous annoncez l'évangile à vos amis, n'est-ce pas? Nous le faisons tous. Combien est-ce que la piété figure dans votre annonce de l'évangile? Est-ce que la piété est grande dans votre évangile? C'est tellement grand pour Paul qu'il peut parler de l'évangile, c'est l'évangile, ces trois couplets, et appeler ça le mystère de la piété. Souvent, nous annonçons mal l'évangile parce que nous disons aux hommes, je vais vous dire comment vous pouvez être pardonné. Et donc, notre évangile se limite au pardon. Notre évangile se limite à comment tu peux échapper aux conséquences de l'impiété, mais nous ne parlons pas de comment tu peux être délivré de l'impiété elle-même. Que l'évangile vous annonce une bonne nouvelle, et ce n'est pas simplement que tu peux ne pas aller en prison, c'est que tu peux ne plus être criminel. C'est que Dieu peut te ramener à lui, pas dans le sens que simplement qu'il ne va pas te battre avec son verge, mais dans le sens que ton cœur sera véritablement ramené à lui. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. À quoi bon de dire au criminel qu'il ne va pas passer la nuit ou quelques dizaines ou centaines de nuits en prison s'il sait qu'il reste le même? Violent, égoïste, dégoûté de lui-même, s'il est conscient. Donc nous devons faire attention d'annoncer dans notre évangile cette bonne nouvelle du pardon et de la transformation. Donc, nous abordons le deuxième point. Nous avons vu que le mystère de la piété est grand en raison de ses conséquences. Deuxièmement, le mystère de la piété est grand en raison de la personne qui l'accomplit et l'œuvre qui l'accomplit. Nous sommes très souvent étonnés par Paul, qui a reçu par révélation une connaissance des choses qui nous échappent parfois, mais il nous dit que la piété n'est pas quelque chose qui peut de nouveau exister chez nous par des disciplines spirituelles simplement. C'est pas ça. Je lis ma Bible, je prie. Non, c'est un grand mystère comment la piété peut arriver dans ta vie encore. Et le mystère n'est pas une méthode, le mystère est la venue de quelqu'un, du Fils de Dieu. Et ce qu'il va faire, et c'est ça que je veux vous faire comprendre ce matin. Et nous allons prendre ça en trois points, mais vraiment rapidement. Les trois couplets, nous allons les appeler accomplissement, proclamation, réception. Jésus accomplit la piété en sa personne, et puis son accomplissement de la piété est proclamé, et ensuite il est reçu, réception, par les anges, par les hommes, en tant que l'homme pieux qui fait revenir la piété dans l'humanité. J'espère que vous allez pouvoir suivre. Ok, l'accomplissement. Nous lisons le premier couplet. Le mystère de la piété est grand, il a été manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit. D'abord, il faut que vous compreniez que la chair et l'esprit, ce n'est pas deux composants de Jésus. Il a la chair, il est âme, il a l'esprit, il est Dieu. C'est pas de ça que Paul parle. Il a une manière un peu technique d'utiliser la chair et l'esprit. La chair et l'esprit sont des domaines, des sphères d'existence. La chair, ce n'est pas quelque chose en moi, même une mauvaise nature en moi. La chair, pour Paul, c'est une sphère d'existence où règne la corruption, la dépravité, la mortalité, la faiblesse. Si vous êtes dans la chair, pour Paul, la chair, c'est quelque chose que vous pouvez, vous êtes dedans. C'est une sphère. C'est un empire. OK? L'esprit ici, être dans l'esprit, dans le sens de ce contexte, parle du monde céleste, parfait, immortel, spirituel, puissant, qui fait invasion dans le monde, dans Jésus-Christ et dans son esprit. Et ici, nous avons d'abord la piété accomplie dans le sens qu'elle est manifestée dans la chair. Ça veut dire que dans ce monde corrompu, mortel, vient en invasion un homme qui, lui, est complètement pieux. Il partage cette même sorte d'existence, sauf qu'il n'a pas de péché, mais il est mortel, il est faible, il a tous les désavantages de cette sphère d'existence, il entre vraiment dedans, il est vraiment homme, et pourtant, il vit une vie humaine complète, avec une piété formidable. Voilà pour la première fois, chers amis, pour la première fois depuis la chute d'Adam, qu'il y a sur la face de la terre un homme pieux. La piété. L'homme tel que Dieu voulait qu'il soit réapparaît. En une seule personne. C'est comme ça que Dieu restaure la piété. Il envoie son Fils qui endosse l'humanité pour vivre une vie humaine pieuse. Et les anges regardent, et les hommes regardent, et voilà un homme qui vit comme personne n'a jamais vécu depuis la chute d'Adam. Manifesté dans l'esprit, la piété, manifestée dans la chair, dans cette sphère dépravée. Mais justifié dans l'esprit, pas justifié par l'esprit, c'est pour ça que je ne parle pas de simplement l'action du Saint-Esprit, un peu plus. Justifié dans l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez le mot justifié? Le chrétien, quand il s'est converti, s'est justifié, déclaré juste. Mais quand est-ce que Jésus a été déclaré juste? La Bible dit que c'est au moment de sa résurrection. Par la résurrection, dans cette résurrection, le Père est en train de déclarer Jésus-Christ juste. Il est en train de dire, vous l'avez condamné, vous avez dit que c'est un criminel, un homme impie, moi je le justifie, il est l'homme pieux. Il est la piété revenue. Il est l'humanité telle qu'elle devait être et je le confirme, je le perfectionne, Je l'enlève dans une immortalité, dans un état, dans une sphère d'existence où cette humanité de Jésus maintenant est fixée pour toujours dans cette piété parfaite qu'il a vécue sur terre. Il ne peut plus pécher parce qu'il est glorifié, il est passé, il est justifié dans l'esprit. Et juste pour vous montrer que c'est bien à la résurrection que ça se passe, nous pouvons nous référer à au même langage que Paul utilise en Romains chapitre 1 et verset 5, où il dit ceci. Pardon, verset 4. Il dit que son évangile concerne le Fils de Dieu, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Il est déclaré Fils de Dieu avec puissance, par la résurrection, selon l'Esprit. Vous voyez la connexion entre l'Esprit de Dieu, la résurrection, et un fait légal où il est déclaré justifié ou déclaré Fils de Dieu. C'est au moment de la résurrection que tout cela se passe. Donc, nous comprenant au début maintenant que Dieu, dans sa grande sagesse, un grand mystère, il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Pour que la piété humaine réapparaisse, il faut que Dieu lui-même devienne homme. Et quand lui-même, sa piété est toute humaine, il y est un homme pieux encore. Un homme qui est confirmé dans cette piété. Et il habite maintenant au paradis, dans son humanité, avec son corps glorifié, avec son âme humaine, tout en étant Dieu véritable. Donc la piété humaine existe, la piété parfaite, mais pas sur terre en ce moment, mais auprès de Dieu. Et un jour, les choses vont changer. Accompli. Ok, maintenant, deuxième couplet. Proclamer, proclamation. Le mystère de la piété était accompli dans la personne de Christ et proclamé. Nous lisons dans ce deuxième couplet qu'il a été d'abord manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, contemplé par les anges, proclamé parmi les païens. Nous voyons encore les deux mondes ici, qui reçoivent chacun de sa manière la nouvelle que Jésus-Christ, l'homme pieux, a résolu le problème de la perte de piété dans l'humanité. Il y a maintenant une humanité pieuse, c'est lui-même. Il est une semence de laquelle va grandir toute une race pieuse. Comment est-ce que les anges apprennent et comment est-ce que les hommes apprennent cela? Le texte nous dit, contemplé par les anges au moment de sa résurrection, c'est le mot grec qu'il utilise ici dans cette forme n'est utilisé qu'au passage qui parle de la résurrection, et les anges voient le Christ ressuscité. Et quel est le message quand ils voient? Le message pour eux, c'est que ce monde impie avec lequel nous ne pouvons pas être amis, nous anges pieux, nous pouvons être amis avec celui-là, homme véritablement pieux, que Dieu lui-même ressuscite et met au-dessous de nous. Là, nous avons compris, il y a une humanité réconciliée, redevenue pieuse en sa personne. Mais pour les hommes, nous voyons, il est contemplé par les anges en tant que l'homme pieux, mais il est proclamé chez les païens. Ange, païen. Vous ne pouvez pas avoir deux pôles plus opposés. Les anges voient un homme pieux et s'en réjouissent, enfin. Les païens voient l'homme pieux. L'homme, comme les païens, devait être. Et il s'étonne. Ils sont repris. Ils voient qu'ils ont eu tout tort. Et ils comprennent non seulement en Jésus-Christ, en sa personne pieuse, ce que j'aurais dû être, mais ils comprennent aussi le moyen de l'être de nouveau. Parce que sa justice est à la fois mon modèle et le moyen d'arriver à ce modèle. Comment est-ce que tu vas être sauvé? Par ta bonté, par ta piété au non-chrétien, tu n'en as pas. Tu seras sauvé par sa justice, n'est-ce pas? En lui, l'homme parfait, Dieu dit comme en quelque sorte à son fils, tu es tellement parfait, tu as tellement de mérite dans ta piété parfaite que tu peux en donner à ton peuple pour qu'il soit pardonné et ramené. Donc, dans la personne de Christ, on proclame l'homme comme il devait être, mais il a vécu cette vie humaine non pas pour lui-même, mais pour nous. Pour que la vie que j'aurais dû vivre et je n'ai pas vécu, il a vécu pour moi, pour que je sois pardonné. Par sa mort, par sa vie. Donc nous voyons que Christ a accompli la piété en sa personne et cette fête qui sauve, qui restaure, a été vue par les anges et entendue par les hommes. Parce que vous ne pouvez pas redevenir pieux à moins de savoir que c'est par lui, par la foi qui sauve en Jésus-Christ. Maintenant, le dernier couplet, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Si quelqu'un va redevenir pieux d'impie qu'il est, il faut que le Christ accomplisse, ramène la piété dans l'humanité. Il faut que ce soit connu, il faut que tu le saches, et il faut que tu répondes. Il faut que tu reçoives ce Christ qui ramène la piété. Et nous voyons qu'il a été cru dans le monde et élevé dans la gloire. Encore, les deux mondes reçoivent, mais chacun de leur façon. Si tu es chrétien, tu as reçu Jésus, l'homme pieux, le Fils de Dieu, et l'homme à ta place. Tu l'as reçu comme les deux. Tu as cru. Mais les anges, ils ont fait plus que croire. Lorsque nous lisons « élevé dans la gloire », ce mot signifie que Jésus est reçu au ciel, élevé dans la gloire, c'est-à-dire dans le monde de gloire. Et les anges, en fait, tout ce monde de gloire, reçoivent Jésus, l'homme pieux aussi. C'est intéressant de savoir que quand l'homme a été mis en dehors du paradis, Adam et Ève, qui a dû assurer qu'ils ne reviennent jamais dans cette place spéciale de la présence de Dieu? Les anges. Les anges ont eu depuis des millénaires le boulot de bannir l'homme de la présence de Dieu parce qu'il est impie. Et maintenant, lorsque le Christ est élevé dans la gloire, les anges reçoivent pour la première fois un homme, un nouvel Adam, qui, lui, n'a pas besoin d'être banni, mais plutôt d'être reçu dans la gloire, élevé au-dessus de tout nom. Donc, nous voyons dans cette élévation du Christ en tant qu'homme. Il n'est pas venu au ciel, il n'est pas élevé au ciel en laissant son humanité. C'est ça que vous devez comprendre. Dans la pensée de Paul, il est en train de parler du mystère de la piété humaine dans tout ce passage. Et le mystère, c'est que ça a été cru dans le monde et cet homme pieux, cette piété a été élevée dans la gloire. Et quand le monde glorieux reçoit le Christ en tant qu'homme pieux et fils de Dieu à la fois, c'est comme si les anges sont finalement réconciliés avec l'humanité. Ce n'est plus deux mondes divisés qui ne peuvent pas vivre ensemble. Parce qu'il y a un de nos représentants, un homme, qui est là-bas, et bien reçu là-bas, le bienvenu. C'est ça le mystère de la piété. Donc le ciel est réconcilié à une humanité pieuse qui commence avec Christ, le deuxième Adam, et qui va ajouter à lui-même toute une race de descendants, des croyants qui va ramener à lui-même pour faire tout un peuple pieux. Mais ce n'est pas seulement le ciel qui est réconcilié avec une nouvelle humanité en Christ. C'est aussi nous qui faisons partie de cette nouvelle humanité. Nous sommes réconciliés avec le ciel. Nous ne voulions pas de cette voie céleste avant. Nous ne voulions pas y aller. Mais en Christ, nous avons vu le ciel et la terre réconciliés. Et nous avons vu, ah, je veux cela. Je veux retrouver en lui cette unité avec mon Dieu et avec le monde qu'il a voulu. Donc, nous avons vu que dans sa personne, Christ fait réapparaître la piété, il l'accomplit, et attention, chers amis, la Bible nous dit qu'il a appris l'obéissance à travers ce qu'il a souffert. Ne pensez pas que sa piété est une chose sans effort et automatique. Il a appris l'obéissance à travers ce qu'il a souffert. Il a forgé une piété. Il a obéi jusqu'à la croix. Il a saigné de ses capillaires en disant, « Père, s'il est possible que cette coupe passe. » Mais sa piété était tellement parfaite qu'il dit, « Mais non, pas ma volonté. » Même devant la croix, même devant l'enfer de la colère de Dieu qui allait s'abattre sur lui, il dit, « Mais non, pas ma volonté, mais la tienne. » Et ça, c'est la piété. C'est la piété. Donc, Jésus a accompli cette piété. Elle a été annoncée. Elle a été reçue par le monde céleste, par le monde terrestre. Nous terminons avec la grandeur du mystère de la piété doit impacter notre vie dans l'Église locale. Et là, le deuxième point était le cœur du message. Ça va être bref. Que faisons-nous avec tout ça? Il y a des choses évidentes, mais l'emplacement de ce verset dans le texte d'un Timothée est important pour nous. Si vous vous rappelez, dans la première partie d'un Timothée, Paul est en train de parler de l'organisation de l'Église et la vie de l'Église locale. Par exemple, si vous jetez un coup d'œil au chapitre 2, il parle de la réunion de prière. Il dit, j'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes. Verset 8, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains pures. Il dit comment les femmes doivent s'habiller dans la réunion de prière et ainsi de suite. Et après ça, dans le chapitre 3, il parle des anciens, des diacres. Qui peut être ancien? Qui peut être diacre? C'est ça son discours. Et après cette discussion des responsables de l'Église, anciens et diacres, au verset 14 du chapitre 3, regardez bien, il résume tout son discours en disant, « Je t'écris ceci, tout ce qui précède, avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Et puis il dit, « Il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, apparu aux anges, prêché parmi les nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ça nous semble très étonnant. Je parle de l'église locale, son fonctionnement, et puis subitement, je dis, oui, le mystère de la piété est grand. Pourquoi tu fais ça, Paul? Il me semble que dans la pensée de Paul, quand il résume, il dit, je viens de vous dire comment vous conduire dans la maison du Dieu vivant. Et il connecte tout de suite la vie locale sur terre avec le monde de Dieu, le ciel. Le mystère est grand. Parce que vous savez que vivre en chrétien, vivre dans l'Église, c'est vivre de cette... Comment dire ? Vivre de cet accomplissement solennel, bouleversant, par lequel Dieu envahit. Il fait revenir la piété. Il rejoint le ciel et la terre, de sorte que maintenant, nous vivons une planète habitée par Dieu et envahie par Dieu, par la présence de son esprit au milieu de son peuple. Paul, en d'autres termes, veut appliquer les recommandations les plus banales, qui peut être ancien, comment s'habiller dans la réunion de prière. Il veut appuyer de telles recommandations banales par la réalité la plus céleste et élevée. Wow. Il y a à peu près 3 ans, nous habitions à Puy-Loubier et la plupart des matins, je commençais la journée en marchant à peu près 1 heure, grimpant une piste qui montait une partie du Mont Saint-Victoire. C'était une bonne manière de pouvoir prier. J'étais tout seul, il n'y avait personne, pratiquement personne jamais sur cette route qui était une piste battue. Et je voyais 1 ou 2 hommes depuis Loubier qui marchaient aussi parfois, mais personne. Donc je montais, et c'était formidable. Alors un jour, parfois je courais un peu la moitié. Un jour je courais, j'étais presque à 2/3 du sommet que je voulais atteindre. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de véhicules militaires et de secours qui étaient donc dans un virage de cette piste qui montait comme ça. Je courais et quand je suis arrivé, je pensais que c'était certainement un exercice de pratique qu'ils étaient en train de répéter comment secourir. Mais quand je suis arrivé carrément au milieu, j'ai réalisé que j'ai regardé à droite et j'ai vu un jeep dans la ravine. Et j'ai réalisé avec un sursaut que je viens d'arriver au milieu d'un drame. J'ai regardé à ma gauche, il y avait 2 hommes qui faisaient comme ça pour essayer de recommencer le cœur de ces militaires. À droite, il y avait d'autres qui travaillaient sur un autre. Il y avait 4 hommes qui étaient par terre, entre la vie et la mort. Et là, j'avais été en train de prier, mais prier mal ce matin, prier ma liste de prières. Vous savez comment ça se passe, comme pas beaucoup de réalité dans cela, peut-être. Et quand je suis passé par là, j'étais saisi, absolument saisi par le Seigneur. Et j'ai arrêté de courir, je ne pouvais plus. J'ai tourné vers le Seigneur avec tout mon cœur pour implorer le Seigneur pour ses âmes, qu'il les sauve. Et il me semblait que maintenant, la réalité de Dieu était très proche. L'éternité était très proche du temps. Et Dieu était très proche de l'âme. C'était vrai avant que j'arrive à ce lieu, mais je ne réalisais pas. Et je pense que c'est ça que Paul veut faire. Nous vivons dans l'Église, mais souvent, nous ne réalisons pas ce que c'est que de vivre pieusement dans la maison de Dieu. Où est Dieu, le Dieu vivant? Dans cet endroit qui n'a pu être l'Église que par la venue du Christ. Et ce grand mystère, il est manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit par une résurrection, proclamé par les païens, cru par les anges, cru dans le monde, élevé dans la gloire. C'est ça que nous sommes. C'est pour ça que nous sommes ici. Oui. Je pense que si c'est ça, poursuivre la piété, peut-être nous devons faire ça avec beaucoup plus d'envie et beaucoup plus de zèle. Et surtout, si nous voulons être pieux, ce n'est pas la piété qui doit occuper nos pensées, mais le Christ. Sa venue, son incarnation, sa descente, sa piété, sa résurrection, sa glorification, tout ce qu'il est. Paul est en train de nous dire que le regarder, regarder tout ce qu'il a fait, c'est comme ça qu'on devient pieux et que le Seigneur nous aide à le faire. Nous allons chanter au Seigneur pour terminer notre culte. Dans le carnet, le numéro 16.
La grandeur du Christ, si digne de louange et de gloire et d'honneur. Nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ainsi désormais rien ne lie notre âme à ce rebat-lieux. Céleste est notre perspective, la foi contemple là-haut. Il est le chef de lui dérive, pour nous tout un monde nouveau.
Je vous invite à un moment de prière. Sentez-vous libre de prier.
Seigneur, nous voulons te remercier pour ces paroles que nous avons entendues de ta part et nous voulons te manifester notre reconnaissance parce que nous voyons clairement que dans cet univers de ténèbres où nous étions ennemis et nous ne voulions pas de toi et nous te tournions le dos, tu es venu nous chercher. Et tu as tout fait pour nous réconcilier avec toi. Et Seigneur, nous voulons élever notre cœur vers toi et nous voulons te remercier de ce que maintenant, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. par ton esprit. Et Seigneur, nous te louons pour vraiment cette chose impossible humainement et incroyable, mais que tu as faite et que tu as accomplie il y a 2000 ans par la crucifixion et la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Loué sois-tu et glorifié sois-tu pour cette œuvre magnifique et insondable. Amen.
Amen.
Seigneur Jésus, gloire à toi pour ce que tu as fait, pour ton obéissance et la piété que tu as forgée, Seigneur. Ô notre Dieu, c'est toi qui es notre piété. Tu as tout fait et nous te glorifions. Pardonne-nous, Seigneur, que nous sommes tellement lents à te contempler, toi. Aide-nous, Seigneur, à tourner nos yeux vers toi. Et à ne pas essayer par nous-mêmes, mais Seigneur, à te contempler. Et nous te demandons de travailler en nous, Seigneur, de nous rapprocher de toi, par ta grâce. En ton nom, nous te prions.
Amen.
Seigneur, merci pour Noël, parce que la grâce est descendue sur terre. La vérité et la lumière sont venues vers nous. Seigneur, donne-nous la joie de Noël.
Merci, notre bon et tendre Père, au nom de Jésus-Christ. De ce que tu nous as sauvés, de ce que tu nous as libérés. Nous étions morts dans le péché de ce monde. Nous étions des ennemis de la croix. Mais dans ton amour, tu as envoyé Jésus et la lumière est venue dans notre cœur. Tu nous as convaincus de péché. Tu nous as communiqué la foi. Tu nous as sauvés, lavés et purifiés par le sang précieux de Jésus. Et maintenant, nous sommes tes enfants. Nous ne sommes plus d'en bas, mais nous sommes d'en haut. Notre nom est inscrit dans le livre de vie et nous passerons l'éternité dans ta gloire. Merci, notre bon et tendre Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta présence qui nous accompagne heure après heure. Merci pour toutes choses, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Amen. Nous attendons, notre Seigneur, le jour où tout ce que tu as accompli sera complètement achevé en nous. Non seulement nous n'aurons plus de tâches de culpabilité, mais plus de tâches de corruption intérieure. Ainsi, nous pourrions t'aimer complètement. Ô Seigneur, t'aimer complètement. Et te ressembler parfaitement. Hâte, Seigneur, ce jour et prépare-nous, sanctifie-nous par ton esprit, ta parole, ton sang, ton habitation en nous. Que Christ soit formé en nous, nous prions au Père. Maintenant, nous nous recommandons à toi pour le reste de cette journée mise à part pour toi et nous prions pour nos frères et sœurs qui ne sont pas là aujourd'hui, pour les Jourdans et pour Philippe et Anne, pour Joël et Anne Favre qui sont sur la route pour voir la famille. Garde-les, Seigneur, bénis-les. Et bénis-nous au sein de nos familles pendant ces célébrations de Noël, nous t'en prions. Gloire à ton nom. Amen. Amen.